Bon, on sait qu'un des gros problèmes dans le contexte de la violence conjugale, c'est la gestion des gens qui sont accusés, par du temps des hommes, donc accusés, et qui sont remis en liberté, ce qui fait que la victime présumée dans l'affaire a peur. Il y a quelques outils juridiques, mais avec une portée limitée, ce qui fait que le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu a déposé un projet de loi, donc, qui vise à permettre à un juge d'imposer le port du bracelet électronique pour une personne qui est accusée et qui est en attente de procès. Nathalie.
Bien, tout d'abord, bravo au sénateur Boisvenu. C'est une extraordinaire initiative. Il faut savoir que le sénateur travaille sur le projet de loi, a travaillé sur le projet de loi pendant 2 ans. Il l'a fait avec un groupe d'une centaine de femmes qui ont vécu ou qui vivent la violence conjugale et qui ont dit au sénateur, voici ce dont nous avons besoin pour protéger nos enfants et nous protéger à partir du moment où on dénonce notre conjoint, notre ex-conjoint. Le sénateur qui était au micro d'Isabelle Maréchal hier, à qui j'ai parlé hier soir, me disait que la dénonciation, souvent pour les femmes, c'est comme signer leur arrêt de mort. Alors, il faut, tu l'as bien dit, Paul, à partir du moment où on dénonce, où il y a des accusations, mais où le conjoint n'est pas encore en prison, il peut s'écouler évidemment des mois. Alors, ce qu'il propose, c'est d'écrire un nouveau chapitre dans le Code criminel, d'introduire un nouveau droit pour les femmes victimes et les enfants victimes de violences conjugales. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas de disposition dans le code criminel dédiée spécifiquement à la violence conjugale. Il vient aussi bonifier ce qu'on appelle le 810 dans le jargon policier, c'est-à-dire que c'est l'interdiction pour un conjoint accusé de ne pas s'approcher de sa conjointe ou son ex-conjointe. Évidemment, ça a des limites parce que le 810, au départ, n'a pas été conçu pour les cas de violence conjugale. Alors, non seulement il veut le bonifier, mais il veut y associer 8 conditions, dont la possibilité pour un juge d'imposer le port du bracelet électronique pour un homme qui serait accusé de violence conjugale, mais qui serait en attente de son procès, qui aurait des antécédents de violence ou qui aurait posé des gestes, évidemment, de violence à l'endroit de sa femme ou de son ex-conjointe. Alors moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Puis ce que les femmes également lui ont dit, c'est qu'il faut interdire l'accès aux réseaux sociaux pour notre agresseur. Parce que souvent, les hommes violents qui cherchent à contrôler leur femme ou leur ex-femme, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent les réseaux sociaux pour les intimider. Alors moi, je dis, Paul, bravo et ça, vivement une collaboration entre Québec et Ottawa sur cette question-là. Parce qu'il faut-il le rappeler, le code criminel relève du gouvernement fédéral. Alors moi, j'espère que le projet de loi va être adopté.
Moi aussi, bravo, puis j'espère que aussi qu'il va être adopté, puis ça va certainement régler beaucoup de problèmes. Malheureusement, ça n'aurait réglé aucun des 8 derniers fémicides, par exemple, parce que tu sais, c'est pas toujours ça fonctionne pas toujours de la même manière, c'est pas toujours le même scénario. C'est pas toujours la personne fait des menaces à répétition, et puis un jour se rapproche de son épouse qui aurait averti la police à l'avance, mais la police fait rien, puis quand même le gars s'en vient, puis boum, il tue la femme. Ça, c'est un scénario qui existe. Qui est fréquent, mais c'est pas dans les 8 derniers cas. Dans les 8 derniers cas, le cas le plus dramatique, c'est Elisapi Angma, c'est une femme de Coudjouac. Elle, ça c'est terrible. En novembre, elle avise que son mari lui a fait des menaces et a été violent envers elle. Et le gars reçoit un ordre de non-contact. Trois fois. Il contrevient à l'ordre de non-contact. Il va chez sa femme, une mère de 5 enfants, elle travaille dans un CPE, etc., une femme très bien. Boum, 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 la bourre de coups, etc. La troisième fois, il se fait mettre en prison. Cinq jours plus tard, il y a un juge qui décide de le libérer avec un ordre de non-contact. Alors, contre les avis de la police, contre les avis du directeur des poursuites criminelles, décide de le libérer quand même. Ça, c'est un drame. Le gars s'en va directement chez sa femme et là-bas.
Et là-dessus.
Et là, dans la communauté inuite, il y a un problème. Hein. C'est 300 fois plus de probabilité de se faire tuer par son époux que dans le reste de la province. 300 fois plus. Et c'est dans cette communauté-là que le juge a pris cette décision-là. Tabourette.
Ben non, mais ça n'a pas de bon sens. Là. Puis tu l'as dit, malheureusement, on ne parle pas souvent, pas trop peu des réalités qui au Nunavik, malheureusement. Mais il y a un contexte qui explique ça, évidemment, les conditions de logement là-bas et tout ça, l'alcool.
La détresse,
absolument, ouais. Tout à fait. Ouais. Mais je veux revenir sur l'initiative du sénateur, parce que Luc, oui, ça n'aurait pas empêché les féminicides, mais ça répond à l'appel de milliers de femmes et d'enfants qui doivent fuir leur logement, leur maison, à la hâte, à la vitesse grand V en dépêchant à mettre du sac des vêtements dans un sac poubelle, dans un sac vert, parce qu'elles craignent pour leur sécurité. Il faut inverser le rapport de force. Une femme n'a pas... Ça n'a aucun sens qu'une femme doive se réfugier dans un centre de maison d'hébergement plutôt que de rester chez elle alors que son mari est libéré. On a parlé de ça déjà. Écoute, il y a des hommes qui payent 185 $ de caution pour se retrouver en liberté. Puis là, évidemment, ce qu'ils font, c'est courir après leur femme puis continuer de l'intimider. Alors, il faut changer le rapport de force. L'autre chose, c'est l'émission Enquête de Radio-Canada qui nous a révélé, puis ça aussi, c'est un sujet dont on n'entend jamais parler, pour chaque joueur de la Ligue nationale de hockey qui reçoit, qui vit une commotion cérébrale, qui vit avec une commotion cérébrale, il y a 4 500 femmes au pays qui subissent la même blessure.
Et Simonac?
C'est épouvantable. On ne parle jamais de ça. Les femmes qui souffrent en silence, les enfants qui vivent dans l'insécurité, dans l'anxiété, qui sont privés de toutes sortes de choses. Écoute, moi, je
Mais Nathalie, je te demander quelque chose.
Oui.
Je me demande si, bon, toute mesure est bonne à prendre, là, tu sais. Mais
oui,
dans les
exact.
Cas, dans les 8 derniers cas, là, il y a 4 hommes qui se sont donné la mort après avoir tué leur femme.
Oui.
Et
des enfants qui sont morts aussi là-dedans, là, oublie pas, Luc. Il y a des orphelins, mais il y a des enfants qui ont été tués aussi. Okay.
Et donc, ces gars-là, là, bracelet, pas bracelet, là, ils s'en vont avec une hache, avec un couteau vers leur épouse. Ils ont 3 enfants, ils ont 4 enfants, et ils l'assassinent. Le bracelet, si jamais la police intervient à temps, excellent, mais c'est loin d'être certain. Là.
Mais c'est parce que le bracelet, il est branché à une centrale de police. Puis mettons qu'on dit, tu peux pas approcher ta victime dans un délai, sur une distance de 500 mètres. Elle a un capteur avec elle parce que c'est bidirectionnel. Puis tu comprends-tu, elle peut poser un geste, par exemple, pour se sauver, la police arrive, tu comprends? C'est sûr que ça réglera pas tout, mais au moins, on protège davantage.
Mais au moins, tu vas donner un sentiment de sécurité plus avancé.
Oui, mais il y en a seulement, dans les 8 derniers, il y en a seulement 2 qui avaient reçu des menaces.
Je vais donner un exemple, puis ça, tu pourras jamais, malheureusement, je pense, encadrer ça. Je me souviens d'un cas sur la Rive-Sud. C'est un couple qui sépare. Lui n'accepte pas la séparation. Ils ont un enfant en commun. Et il y a la garde de l'enfant. Et il tue l'enfant, puis il suicide. Ah. Tu comprends? Pendant la période... Pour punir, puis tout ça, là. C'est la violence... familiale, si on veut, violence faite à l'enfant. Puis moi, j'avais lu la lettre qu'il avait écrite, puis c'était de la vengeance contre elle. Tu sais, je l'aurai pas, ben toi non plus, tu l'auras pas, puis bon. Fait que ça, c'est un autre aspect aussi, mais...
Mais c'est pour ça, regarde, pour ça que j'évoque le fait que quatre de ces hommes-là se sont suicidés. Tu sais, un meurtrier qui tue quelqu'un, là, dans une affaire de drogue ou de gang de rue, là, il se suicide pas après, là. Lui, c'est un meurtrier, là, tu sais. Lui, il veut faire le mal, puis... Le gars qui se suicide, c'est de la destruction. Il veut détruire les autres, puis il veut se détruire lui-même.
Vas-y,
continue, Nathalie.
C'est un sujet qui m'emballe, que je trouve que c'est un phénomène qui a trop souvent été oublié, occulté, malheureusement. Mais là, il faut parler des vraies affaires. Tu parlais des hommes la semaine dernière, Luc, parlons-en. Quand ça prend 6 mois de délai d'attente pour aller suivre une thérapie, il y a un problème. D'ailleurs, le projet de loi du sénateur Boisvenu prévoit ça, l'obligation, en fait, la possibilité pour un juge de dire « Non, toi, tu t'en vas, là, suivre ta thérapie, puis pas dans 6 mois, là,
tout le monde sait que tu as beau le forcer à aller en thérapie, s'il veut pas y aller, là, ça donnera pas grand-chose, par exemple.
Mais si c'est un juge qui l'ordonne, Paul, puis si les organismes ont des moyens maintenant, tu comprends-tu, pour le faire, parce que le problème des hommes, souvent, c'est Louise Riendo qui disait ça, des maisons d'hébergement, c'est pas un problème de santé mentale, c'est un problème de contrôle. Ils veulent contrôler, puis quand ils perdent le contrôle, ils viennent fous, puis ça donne ce que ça donne.
On s'arrête là-dessus, on vous retrouve demain, jeudi, 9h01, autoroute 20.